إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأراضين، وخالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، لا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذره منه، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله، نواصل دروسنا فيما يتيسر من شرح التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ الصالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. طيب، فقال المؤلف رحمه الله في هذا الباب: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. طيب، فبإذن الله عز وجل سنذكر المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الباب. فقال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. طيب، donc on poursuit inshallah ta'ala explication de kitab al-tawhid de Cheikh de l'imam Salih ibn Abd al-Aziz al-Sheikh hafizahullah ta'ala, et on va terminer inshallah aujourd'hui le chapitre intitulé on ne sacrifie pas pour Allah dans un lieu où l'on sacrifie pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va évoquer donc ici pour terminer les masail, yani les points essentiels de ce chapitre. Donc il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, le premier point, tafsir qawli, l'explication de la parole d'Allah jalla wa ala, dans le sens du verset, et ne te tiens jamais debout dans ce lieu, yani dans la mosquée de Ad-Dirar. C'est-à-dire la mosquée de Ad-Dirar dont on a parlé yani donc au début de ce chapitre là, d'accord? Donc le tafsir, l'explication de ce verset. طيب لا تقم فيه يعني ne prie jamais dedans. D'accord? Donc verset de la sourate At-Tawba. طيب نعم. الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. Deuxième point: le fait que la désobéissance a un impact sur يعني la terre, c'est-à-dire le lieu ou l'endroit. De la même façon que l'obéissance a aussi un impact sur le lieu et l'endroit. D'accord? Donc on l'a vu par rapport justement au fait qu'il est interdit de sacrifier, d'accord, dans un endroit pour Allah Jalla wa'ala, dans lequel donc des gens sacrifient pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Jayid. Donc ça montre que le fait que dans un lieu il y a une désobéissance, notamment ici donc l'association, le shirk, où il y a eu des actes d'association, naam, dans le passé, il sera interdit de faire un acte, yani, en apparence qui est similaire dans cet endroit-là. D'accord? Donc le fait de sacrifier pour Allah, ou lorsque les associateurs sacrifiés pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, également des bêtes, eh bien le rite en apparence était identique. Les gestes, la manière de sacrifier la bête était identique. Seule l'intention était différente. D'accord? Donc le monothéiste, lui, sacrifie pour Allah, alors que le polythéiste, il sacrifie pour une créature. D'accord? Taïeb. C'est pour cela qu'il est interdit, donc, de faire cet acte-là d'obéissance dans un lieu où, justement, des péchés ou des actes de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala sont venus ternir et salir ce lieu-là. D'accord? Donc, le fait de faire le même acte d'adoration en apparence est interdit. En revanche, on avait parlé, hein, du fait de prier dans des églises. Donc, on avait dit que le fait de prier dans des églises était permis, bien que, hein, on sait que dans les églises, ils associent Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Mais le fait que la prière des musulmans est totalement différente de la prière des gens du livre ou des associateurs, naam, eh bien cela fait que il ne peut y avoir de confusion, hein, ou d'ambiguïté au niveau de l'acte en lui-même. D'accord? C'est pour cela que cela est permis à condition que qu'il n'y ait pas d'image, de statue à l'intérieur. D'accord? Et également, il dit l'auteur ici, atta, hein, l'obéissance. Donc l'obéissance a un impact aussi sur le lieu, l'endroit. C'est pour cela que, bien sûr, les mosquées, hein, sont meilleures que les marchés. D'accord? Pourquoi les mosquées sont meilleures que les marchés? Eh bien, tout simplement, bien sûr, du fait que à l'intérieur, les gens obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, yani, en permanence. Bihamdillah subhanahu wa ta'ala. طيب نعم الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال طيب فقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك بالاستفصال. En troisième point, le fait de clarifier, hein, le fait de clarifier des questions qui sont peut-être confuses ou qui peuvent prêter à confusion. D'accord? Donc, le fait de clarifier et de ramener cette question qui peut porter à confusion vers une question qui est claire et évidente, afin que justement la confusion disparaisse. C'est pour cela, comme dit le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, donc le fait d'interdire de sacrifier pour Allah dans cet endroit-là peut porter à confusion. Comment? Yani, comment cela est interdit alors que je veux sacrifier pour Allah Jalla wa Ala? C'est pour cela que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a justement exposé la raison pour laquelle cela a été interdit. Lorsqu'il a demandé à cette personne aller le tafsil, c'est-à-dire les détails de cet endroit-là, yani, est-ce qu'il y avait à cet endroit-là une idole qui était adorée en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou des célébrations, yani, que les polythéistes avaient l'habitude de faire dans cet endroit. Naam. Jayid. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك قال الشيخ العثيمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل لكن هل يجب الاستفصال على كل حال أو إذا وجد أو إذا وجد الاحتمال الجواب لا يجب إلا إذا وجد الاحتمال لأننا لو استفصلنا كل مسألة لطال الأمر. فمثلا لو سألنا سائل عن عقد بيع، لم يلزم أن نستفصل عن الثمن، هل هو معلوم، وعن المثمن هل هو معلوم، وهل وقع البيع معلقا أو غير معلق، وهل كان ملكا للبائع، وكيف ملك أو وكيف ملك، وهل انتفت موانعه أو لا. أما إذا وجه الاحتمال فيجب الاستفصال، مثل أيسأل عن رجل مات، عن بنت وأخ وعم شقيق، فيجب الاستفصال عن الأخ، هل هو شقيق أو لأم؟ فإن كان لأم سقط وأخذ الباقي العم، وإلا سقط العم وأخذ الباقي الأخ. كاتخيام بوين ديال الشيخ لوتور رحمه الله تعالى، المفتي يعني demande ou doit demander des détails quand cela est nécessaire ou quand il en a besoin. D'accord? Donc, quand il voit qu'il y a une nécessité à le faire, al-mufti, donc celui qui donne une clarification religieuse, doit demander des détails, hein, ce qu'on appelle al-istifsal. Donc, dit le Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, cela car le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé des détails. Mais est-ce que cela est obligatoire dans tous les cas? Ou cela devient obligatoire seulement lorsque il y a des éventualités. Des éventualités probables. D'accord? La réponse, cela n'est obligatoire que si il y a justement une éventualité probable qui peut, yani, ou qui va changer la réponse du mufti, hein, qui va changer le jugement religieux. Et pas dans tous les cas. D'accord? Donc on ne demande pas l'istifsal dans tous les cas. Parce que si on devait demander des détails dans tous les cas, pour chaque question, eh bien cela serait, deviendrait très long et très lourd. D'accord? Donc, exemple, si une personne nous pose une question, par exemple, nous demande au sujet de le contrat de vente, d'accord? Un contrat de vente, taillé. Eh bien, on ne sera pas obligé de demander des détails, par exemple, au sujet du prix, est-ce que le prix il est connu ou pas? Est-ce que la marchandise, est-ce qu'elle est connue ou pas? Est-ce que la vente qui a été faite, est-ce qu'elle est mu'allaq ou pas mu'allaq? D'accord? Est-ce qu'elle est yani, attachée à quelque chose, une condition, ou elle n'est pas attachée à une condition? Est-ce que cette marchandise, elle appartenait vraiment au vendeur? Et comment il a acquise? Est-ce que avant qu'il y ait eu la vente, tous les obstacles étaient absents pour justement permettre de valider la vente ou pas? D'accord? Donc bien sûr, dans ce cas-là, lorsque quelqu'un te pose une question ou pose une question au mufti au sujet d'un contrat de vente, il n'est pas obligé de demander tous ces détails. Il va répondre, yani, selon la question du vendeur. Sauf s'il voit bien sûr que par rapport à la question du vendeur, il y a nécessité de demander certains détails. Puis il dit, mais lorsque, justement, lorsqu'une question nécessite que l'on demande des détails, on doit le faire. Par exemple, une personne pose une question au sujet de l'héritage. Il dit, voilà, un homme, il est mort, et il laisse derrière lui une fille, un frère et un oncle paternel. Une fille, un frère et un oncle paternel, hein, germain, donc le frère de son père. Taïm. Ici, dit le cheikh, il est obligatoire de faire ce qu'on appelle al-istifsal. Pour quelle raison? On verra pourquoi. Al-Mufti devra demander ici à la personne, est-ce que le frère, est-ce que c'est un frère chéri ou un frère du côté de la mère? Autrement dit, est-ce que c'est un frère germain ou est-ce que c'est un demi-frère du côté de la mère? Pourquoi? Parce que ça change tout. Hein? Le fait qu'il soit un frère germain ou un demi-frère du côté de la mère, eh bien, les parts d'héritage vont être différentes. D'accord? C'est-à-dire que si c'est un demi-frère côté de la mère, eh bien, il n'aura droit à rien. Il n'aura droit à rien. Ça fait que, donc, la fille, elle prendra la moitié. Donc, de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, donc, lui a donné, la fille, elle prend la moitié. Et l'autre moitié, du coup, reviendra à l'oncle. Reviendra à l'oncle. En revanche, si c'est un frère germain, si c'est un frère germain, eh bien, c'est l'oncle, dans ce cas, qui sera privé. Et du coup, le frère, lui, prendra l'autre moitié. Donc vous voyez ici que selon si le frère il est un frère germain ou un demi-frère du côté de la mère, cela va changer carrément et le partage de l'héritage. Dans ce cas-là, donc le mufti se devra de demander des détails à ce sujet. Al-Khamisa, anna takhsis al-buq'ati bin-nadhr la ba'sa bihi idha khala min al-mawani'. وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة فالواقعة أن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية والمتوقعة أن يخشى من الذبح في هذا المكان تعظيمه فإذا خشي كان ممنوعا مثل لو أراد أن يذبح عند جبل فالأصل أنه جائز لكن لو خشي أن العوام يعتقدون أن في هذا المكان يعني مزية كان ممنوعا. Cinquièmement, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, le fait de spécifier un lieu pour faire, pour exécuter un nadr, un engagement pieux, cela n'a pas de mal. Il n'y a pas de mal à le faire, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas d'obstacle et d'empêchement qui rendrait cela interdit. D'accord? Cela en vertu de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Auf binadrik »« Honore ou respecte ton engagement pieux. » D'accord? Que, mais sinon, si cet endroit-là comporte des choses qui vont interdire, eh bien, l'exécution de ce nadr, cela sera interdit. Que ces choses interdisant cela soient des choses qui sont yani, présentes et réelles dans le temps présent ou attendues ou présumées ou probables. D'accord? Donc, les choses qui empêcheraient cela dans le temps présent de le faire, qui sont donc concrète et réelle dans le temps présent. Par exemple, le fait qu'il y ait dans cet endroit-là une idole, d'accord, qui est adorée en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala et pour laquelle donc les gens adorent et les gens sacrifient pour elle, d'accord, ou des célébrations, des réunions, taïeb, que les gens avaient l'habitude de faire à l'époque de la jahiliya. Mais aussi les obstacles ou les empêchements qui sont, comme on dit, mutawaqi'a, qui sont présumés et probables, et attendus, et prévisibles. Voilà, prévisibles. Par exemple, le fait de sacrifier à cet endroit-là, d'accord? Eh bien, on redoute que les gens, surtout ceux qui n'ont pas de science, à cause de cela, vont glorifier cet endroit-là. Donc, si on craint cela, s'il y a des raisons légitimes de penser que les gens vont glorifier cet endroit-là à cause de ce qu'on va faire, cela deviendra interdit. Par exemple, si la personne désire sacrifier yani, sur une montagne, yani, taïeb, donc à la base, on a dit c'est permis. À la base, c'est permis. Mais si l'on craint que l'awam, yani les gens de la masse, les gens qui n'ont pas de science, à cause de cela, vont croire que cette montagne, elle a une particularité, yani par rapport aux autres montagnes, etc., etc., cela deviendra interdit. D'accord? Donc, les obstacles, soit des obstacles qui sont concrets, réels dans le temps présent, soit des obstacles que l'on prévoit. D'accord? Des choses qui sont prévisibles et probables, hein, de manière légitime. Naam. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. Sixième point, l'interdiction donc de faire un acte d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala dans un endroit où il y a une idole, parmi les idoles de l'époque pré-islamique, même si elle a disparu. D'accord? Même s'il y avait même s'il n'y a plus cette idole-là dans le temps présent, mais le fait qu'il y en avait une dans le passé, eh bien cela empêche aussi de faire cela. D'accord? On en avait parlé donc la semaine dernière. Hein? Cela se trouve dans la question du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Hal kana fiha wathanun ». Donc il a parlé au passé, il a dit « Est-ce qu'il y avait dans cet endroit-là une idole ?» Donc le fait qu'il ait parlé au passé montre que même s'il y avait une idole dans le passé et qu'elle n'existe plus aujourd'hui ou qu'elle n'est plus dans cet endroit-là, eh bien cela reste tout de même interdit. « Al-sabi'a » المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. Et septième point, pareil, sauf que là on parle des عيد, des أعياد, d'accord, des célébrations, des moments où les polythéistes ont l'habitude de se rencontrer, etc., etc. Donc même si ils ne font plus ce genre de rassemblement et de célébration, le fait qu'ils l'aient fait dans le passé, dans cet endroit-là, hein, cela reste interdit. En vertu, encore une fois, de la question du prophète, فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ. Est-ce qu'il y avait, donc toujours dans le passé, est-ce qu'il y avait dans cet endroit-là une célébration, yani parmi leurs célébrations? طيب. ثامنا أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. Huitièmement, il est interdit d'honorer l'engagement pieux dans cet endroit-là, car ce sera un nadr de désobéissance. Car cela deviendra un nadr de désobéissance. Et il est donc interdit, bien sûr, d'exécuter ce genre d'engagement. Taïe. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدهم. طيب. وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني ابن تيمية رحمه الله على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد هذا الحديث طيب نعم فإنه يمنع منه ولو لم يقصد لكن مع القصد يكون أشد إثما ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولو لم يقصده. Donc il dit ici un point important, c'est le neuvième. Faire attention à la ressemblance aux polythéistes, notamment ici en l'occurrence, dans leur célébration. D'accord? Dans leur célébration, dans leurs coutumes, leurs traditions ou leurs fêtes. Même si la personne n'a pas eu l'intention de leur ressembler dans ça. Même s'il n'a pas l'intention. D'accord? Donc, par exemple, celui qui se rend dans un endroit où les polythéistes sacrifient pour leurs idoles, lui, il y va au même endroit pour sacrifier pour Allah Jalla wa Ala, sans avoir l'intention de leur ressembler, c'est pas son intention. Son intention, c'est juste d'aller sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, cela reste quand même prohibé. Et illicite, d'accord? Même s'il n'y a pas l'intention de ressembler aux mécréants, d'accord? Donc, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit que la ressemblance se réalisera même s'il n'y a pas d'intention. Il y aura quand même une ressemblance au mécréant, même si l'intention n'est pas présente. D'accord? Donc, même dans ce cas-là, en l'absence d'une intention de ressembler au kuffar, au mécréant, cela sera tout de même interdit. D'accord? Bien sûr, si la personne a l'intention, lorsqu'elle fait cela, de ressembler au mécréant, cela sera encore plus grave en termes de péché. C'est pour cela qu'il dit Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans son neuvième point ici, walaw lam yaqsidhu, même si il n'en a pas eu l'intention. Al-ashira, la nadhara fi ma'asiyah. Hakadha qala al-mu'allif, la nadhara fi ma'asiyah. ولفظ الحديث المذكور لا وفاء لنذر وبينهما فرق وبينهما فرق فرق فإذا قيل لا نذر في معصية فالمعنى أن النذر لا ينعقد وإذا قيل لا وفاء فالمعنى أن النذر ينعقد لكن لا يوفى وقد وردت السنة بهذا وبهذا لكن لا نذر يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. Dixième point, pas de nadr, pas d'engagement pieux dans la désobéissance, في معصية. Comme l'a dit ici l'auteur, رحمه الله تعالى. Mais on a donc un hadith qui vient avec une autre formule dans lequel il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la wafa'a al-nadr, pas de respect ou pas d'exécution du nadr. D'accord? Donc entre les deux formules, en vérité, on peut trouver une différence. Dans la première formule qui est la nadra fi ma'asiyah, pas d'engagement pieux dans la désobéissance, ou pas d'engagement tout court dans la désobéissance, et dans la formule qui est la wafa'a al-nadr. Pas d'exécution de l'engagement dans la désobéissance. D'accord? Donc lorsqu'on dit, on dit la nadra fi ma'asiya, pas d'engagement dans la désobéissance, cela indique que, ou cela indiquerait, entre guillemets, que l'engagement pieux n'est pas effectif. De base, il n'est pas effectif. Il n'est pas compté. En revanche, si on dit la wafa'a, pas d'exécution de l'engagement dans la désobéissance, cela voudrait dire que le nadr en lui-même, il est effectif, il est pris en compte, mais que malgré ça, on n'a pas le droit de l'exécuter et de le respecter. Pourquoi? Parce que c'est un nadr dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que la sunna est venue avec les deux formules, avec la formule la nadra fi ma'asiyah et l'autre formule la wafa li ma'asiyah. La wafa li nadrin fi ma'asiyah. Pas d'exécution dans dans la désobéissance, yani pour le nadr dans la désobéissance. Jayyid. Mais donc vu qu'on a les deux formules qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dira que la nadra, hein, la nadra, il n'y a pas d'engagement pieux, signifie donc, ici le sens, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'exécution. Le fait d'exécuter ou d'honorer ce genre d'engagement dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala sera interdit. D'accord? Et ça, on le voit clairement. Comme on l'a dit la semaine dernière, dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, où il dit, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهِ. Celui qui s'engage à désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il ne lui désobéisse pas. Donc cela nous montre, hein, par rapport à cette parole-là, مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهِ. Ça nous montre que le nadr, même dans la désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, il est effectif, et il est pris en compte. Et comme il est pris en compte, et que la personne n'a pas le droit de le respecter, il faudra donc qu'elle fasse ce qu'on appelle une kafara, c'est-à-dire une expiation. D'accord? نعم. أخيرا الحادية عشرة، لا نظر لابن آدم فيما لا يملك. يقال فيه ما قيل في لا نظر في معصية، والمعنى لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، ويشتمل ما لا يملكه شرعا ولا يملكه قدرا. طيب، et onzième et dernier point, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, pas de nadr, d'accord, pas d'engagement pieux, religieux, pour l'enfant d'Adam, l'être humain, dans ce qu'il ne possède pas. Dans ce qu'il ne possède pas. Donc là, on dit la même chose que pour le dixième point, d'accord, concernant le fait que le nadr, dans ce qu'il ne possède pas, est effectif, qu'il n'a pas le droit de l'exécuter et qu'il devra faire une expiation. D'accord? L'expiation du serment, c'est la même. Mais le sens ici de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la wafa li nadrik, c'est-à-dire pas d'exécution. On n'a pas le droit d'exécuter un nadr dans ce que la personne ne possède pas. Et cela englobe la non-propriété religieuse et la non-propriété ou la non-capacité qadaran, au niveau de la création et de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, je m'explique, lorsque on dit dans ce que l'enfant de Adam ne possède pas religieusement, par exemple, quelqu'un dit, moi je m'engage pour Allah d'affranchir l'esclave de mon voisin. Mais c'est pas son esclave, d'accord? C'est l'esclave de son voisin. Donc, il ne peut remplir cet engagement-là, car cet esclave ne lui appartient pas. Donc du coup, là, il aura fait un nadr dans ce qui ne lui appartient pas religieusement. D'accord? Dans ce cas-là, il n'aura pas le droit de le faire, de l'accomplir, et en plus, il devra faire ce qu'on appelle une kafara, une expiation. Taïe. Mais également ce qu'il ne possède pas, ou ce que Allah tabarak wa ta'ala ne lui a pas donné. Yani, concrètement, dans la réalité, réellement, par exemple, quelqu'un dit, je m'engage pour Allah de voler avec mes mains. Hein, de voler, aller dans les airs comme un oiseau, avec mes mains. Là, il aura fait un engagement dans ce qu'il n'a pas et dans ce qu'il ne peut pas faire, réellement, concrètement, hein, par rapport à ce qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a donné comme capacité réelle. Jayid, donc dans les deux cas, cette forme de nadr, bien sûr, est interdite et la personne devra faire une expiation. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadha inshallah ta'ala. Wal'ilmu indallah wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama taslima. Jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.